RFI 23h30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et toute l'actualité africaine, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au lendemain de la prise de contrôle par le M23 et des éléments de l'armée rwandaise de la ville de Bukavu, la vie tente de reprendre son cours. De leur côté, les responsables religieux, la CENCO et l'ECC, multiplient les initiatives diplomatiques en faveur du retour à la paix. Et puis pas de sanctions ni de plan de sortie de crise à l'issue du sommet de l'Union africaine. Le Rwanda fait-il peur? Pourquoi ce malaise? Nous en parlerons avec le chercheur Paul Simon Ondi. Dans l'actualité également, l'Est et le centre-nord du Burkina Faso frappés par une série d'attaques djihadistes ces derniers jours. La fin de la grève des enseignants au Mali. Après 3 semaines de conflit, le gouvernement de transition a ouvert le dialogue. Plus d'une personne sur deux en Côte d'Ivoire confrontée à des violences ou à des cas de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. C'est le constat d'une étude. Nous y reviendrons dans ce journal. Et puis un plan d'austérité au Sénégal. Parmi les mesures annoncées et parmi les plus populaires, la baisse des salaires des ministres. Dans l'est de la RDC, les activités reprennent peu à peu dans la ville de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, dont les rebelles du M23 et des éléments de l'armée rwandaise se sont emparés hier. Une occupation confirmée et dénoncée par le gouvernement congolais à Kinshasa. Malgré la psychose, des habitants commencent à sortir de chez eux pour chercher de la nourriture. Willy Diallo.
Après avoir passé 2 jours sans mettre les pieds dehors, Zena est sortie pour vendre les derniers poissons qu'elle entreposait chez elle.
Je suis là à cause de la faim chez moi. Mes enfants me demandent à manger car depuis vendredi, nous étions enfermés à la maison. Je ne leur donnais que de la bouillie. J'ai estimé que je pouvais recommencer la vente. J'ai encore peur, mais c'est Dieu qui va nous aider.
Sur différentes places de la ville, les habitants sont venus constater les dégâts liés aux tirs et au pillage des magasins et marchés. Hortense a passé 2 jours à entendre les balles siffler autour du camp Saïo.
Je vois que nous pouvons déjà commencer à vivre, mais avec précaution. Il n'y a aucun mouvement qui peut nous rassurer que l'on peut déjà marcher avec certitude. Moi, souvent, je vois des véhicules des militaires passer. J'entends qu'ils tiennent un meeting. Peut-être que je serai rassurée.
Didas observe et regarde les quelques motos et taxis qui circulent. Les ambulances qui acheminent les blessés vers les hôpitaux attirent son attention.
On a passé des moments très très difficiles. Les armes qui circulent parmi les civils, c'est un grand danger.
Le CICR alerté hier sur les nombreux blessés de guerre par balles et explosifs arrivés dans les centres de soins. L'organisation espère aussi pouvoir identifier les morts et leur donner une sépulture décente.
Voilà pour les choses vues à Bukavu. Et après, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, c'est au tour du président du Congo, Brazzaville, de faire part de ses inquiétudes. Denis Sassou Nguesso dit craindre une guerre régionale. L'occupation de Bukavu a été également condamnée par plusieurs chancelleries occidentales. Elle demande à Kigali le retrait de ses soldats du sol congolais et l'application d'un cessez-le-feu. Et pendant ce temps, les responsables religieux, catholiques et protestants du pays poursuivent leur mission de consultation dans le cadre d'un pacte social pour la paix. Selon leurs termes, après avoir rencontré les dirigeants de l'AFC M23 à Goma, le président Kagame à Kigali, ils sont désormais en Europe et ils ont rencontré à Bruxelles plusieurs représentants de l'opposition politique congolaise. À Kinshasa, Pauline Azidi.
Ce dimanche, c'est avec Moïse Katumbi et ses proches que les responsables des églises ont échangé. Comme à chaque fois, les religieux ont présenté leur mission, détaillant leur pacte social. Mais ils ont surtout écouté. Ils recueillent les points de vue des politiques et des acteurs de la région pour remettre un rapport au président, a expliqué un participant aux échanges. Du côté de Moïse Katumbi, on assure soutenir cette démarche. Il n'y a pas d'autre voie possible, estime-t-on, dans le camp de l'opposant. Tous les Congolais doivent se mettre autour d'une même table pour se parler, a déclaré le sénateur d'Ensemble Salomon Kalonga. Samedi, les religieux se sont entretenus avec l'ancien député Claudel Loubaya, mais aussi Jean-Claude Mwemba ou encore Franck Diongo, et surtout avec des représentants du FCC, la plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila. Enfin, la CENCO-ECC s'est aussi entretenue avec le représentant de l'Union européenne pour les Grands Lacs. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et si l'Union africaine a mis en garde contre une balkanisation de la RDC hier, le sommet des dirigeants de l'organisation n'a abouti sur aucune sanction ni plan de sortie de crise, pas de condamnation explicite du Rwanda comme le demandait Kinshasa. La RDC était représentée par la première ministre à ce sommet, Judith Sumimwa, qui affirmait que le Rwanda avait violé les principes fondamentaux de l'acte constitutif de l'UA en menant une agression armée contre un autre État souverain. Fin de citation. Alors le Rwanda a-t-il effectivement violé la charte de l'Union africaine? Paul Simon Andy est directeur Afrique de l'Est de l'Institut d'études de sécurité. Il répond à Arthur Ponchelet.
C'est très clair, il y a une vraie violation de la charte de l'Union africaine. Il y a en effet violation de l'intégrité territoriale du Congo. Mais une fois qu'on l'a dit, il faudrait considérer aussi les griefs de l'autre partie, notamment du Rwanda. Le Rwanda se plaint d'une violation d'un principe fondamental de la charte de l'Union africaine, qui est le respect de la dignité, le respect de l'humanité de certaines populations du Congo. Ces deux version, c'est ce qui rend une condamnation du Rwanda extrêmement compliquée compte tenu du mode de gestion qu'on peut critiquer, hein, de particulièrement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
Est-ce que vous diriez que le Rwanda fait peur à une partie des chefs de l'Union africaine?
Non, je ne pense pas que le Rwanda fasse peur. Je pense que le Rwanda a tout simplement fait un travail diplomatique énorme. Je pense que le Rwanda a su construire au fil des années des amitiés, des alliances, des connexions qui gênent certains pays, notamment à prendre une position tranchée là-dessus. Je pense pas qu'il s'agisse de peur, il s'agit peut-être de stratégie. Et là, le Rwanda s'est peut-être avéré efficace. Le même travail devrait peut-être être fait aussi par RDC, qui a des atouts, qui siège au Conseil de paix et de sécurité à Addis Abeba, qui a fait un travail diplomatique énorme en dehors de l'Afrique, de ce côté. On a vu au Conseil de sécurité, on a vu à l'Union européenne le travail remarquable fait par la diplomatie congolaise. Il faudrait peut-être étendre ce travail au niveau de l'Union africaine et des communautés économiques régionales.
Justement, la première ministre congolaise s'est exprimée au sommet de l'UA. Elle a dit, et je la cite, « L'Union africaine ne peut cautionner l'impunité, laisser cette agression sans réponse. C'est créer un précédent dangereux pour chaque État représenté ici. » Visiblement, les pays de l'Union africaine n'ont pas été sensibles à cet argument.
Peut-être qu'ils ne l'ont pas vraiment écouté et peut-être qu'ils ne l'écouteront que lorsqu'ils seront eux-mêmes concernés. Mais je pense que les propos de la première ministre sont justes. C'est la position du Congo et elle est forte en fait. On peut se demander si l'Union africaine voudrait cautionner le fait que pour résoudre un problème, on puisse avoir recours à une telle démonstration de force militaire. Ça symbolise une crise du multilatéralisme africain, notamment une crise aussi de mode de gestion de l'Union africaine.
Paul Simon Andy, qui était donc l'invité d'Afrique Midi aujourd'hui, qui répondait à Arthur Ponchelet. En bref, l'Ouganda est l'opposant historique Kizza Besigye, qui a été brièvement hospitalisé la nuit dernière. Il est en grève de la faim depuis près d'une semaine, mais son état de santé s'est dégradé. Et selon son avocat, il a été ramené en prison aujourd'hui. Kizza Besigye, ancien médecin personnel du président ougandais Yoweri Museveni, est dans le collimateur du gouvernement depuis qu'il s'est rallié à l'opposition.
Afrique Soir sur RFI.
22 heures passées de 38 minutes à Ouagadougou, au Burkina Faso, un détachement de l'armée ciblé hier par des djihadistes. Ça s'est passé à Séguénéga, dans la région nord du pays. C'est la dernière attaque d'une longue série en moins d'une semaine. Depuis la semaine dernière, en effet, au moins 4 localités du nord et de l'est du Burkina ont subi des assauts similaires revendiqués par le JNIM d'Al-Qaïda. Il y a eu des victimes civiles et des militaires également, selon nos informations. Sidi Yansani.
Les 12 et 14 février dernier, ce sont deux assauts qui viennent frapper la région de l'est. Le premier à Tanwalbougou, près de Fadagourma, où, d'après des sources locales, l'attaque d'un détachement de la gendarmerie a causé la mort de 12 gendarmes et VDP. Le second à Balga, où les djihadistes ont sommé aux habitants d'abandonner leur village par crainte de représailles. Le lendemain, dans la région voisine du centre nord, c'est un détachement de l'armée qui est visé à Dargo. D'après les témoignages recueillis par RFI, les soldats ont abandonné leur poste devant des terroristes en surnombre. Les assaillants ont filmé leur butin, des armes, des moyens de communication et de transport. Les djihadistes ont aussi mis la main sur un drone de surveillance avant de mettre le feu à la base militaire. Le JNIM, branche locale d'Al-Qaïda, a revendiqué toutes ces attaques. Pour l'instant, il n'y a pas eu de communication de la part des autorités burkinabées.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et direction le Sénégal, où des mesures d'austérité ont été annoncées face à un contexte budgétaire très tendu et alors qu'un rapport de la Cour des comptes révèle un déficit du budget de plus de 12%. Invité à la télévision publique, le secrétaire général du gouvernement, Amadou Al-Aminou Lo, a annoncé plusieurs mesures, parmi lesquelles une qui est assez spectaculaire puisqu'il s'agit de baisser le salaire des ministres. Léa Lisa Westerhoff.
L'ampleur de la baisse et la date de sa mise en application ne sont pas encore connues, mais le secrétaire général du gouvernement s'est voulu catégorique hier. Il va falloir se serrer la ceinture, à commencer par l'État, a affirmé Amadou Al-Aminou Lo dans une émission télévisée. Les directeurs généraux d'entreprises et les ministres vont devoir baisser leur salaire, pas les autres fonctionnaires, précise un membre de la communication du gouvernement. Une mesure qui a toutes les chances d'être populaire. Interrogé sur le sujet par le média en ligne Sénéweb la semaine dernière, 83% des 4000 votants ont répondu en faveur d'une baisse des salaires des ministres. Autre annonce, la suppression d'agences de l'État pour réduire les dépenses, mais aussi la fin des subventions du prix de l'électricité pour les industries et les plus riches. Enfin, l'impôt, le gouvernement n'a aucune marge, a expliqué le secrétaire général du gouvernement. Avec une dette à presque 100%, le Sénégal ne peut pas s'endetter plus. Ne reste que l'arme fiscale, a expliqué Amadou Al-Aminou Lo. Des mesures d'austérité qui interviennent dans un climat social explosif. Le ministre a appelé à des discussions sincères avec les syndicats, alors que les menaces de grève se multiplient. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et au Mali, après 3 semaines de grève très suivie, les enseignants-chercheurs ont repris le chemin des universités. La coordination syndicale qui demandait depuis fin janvier l'application d'une prime de recherche. Après avoir un temps ignoré ce mouvement social, le gouvernement malien de transition a finalement ouvert la porte du dialogue. Il a mis en place une commission de réflexion avec les syndicats, mais tout reste à négocier. David Baché.
La commission de réflexion est composée de conseillers du ministère de l'enseignement supérieur, de représentants de la coordination syndicale SNESUP-SECMA et de représentants de la conférence des recteurs d'université. Une première réunion leur a permis de s'accorder sur les objectifs. D'abord, fixer les modalités d'application de la prime de recherche, notamment le calendrier et la question des arriérés, puisque la prime a été créée en 2017 sans jamais être versée. Dans un second temps, sera négocié le montant de cette prime. À terme, la commission devra proposer un avant-projet de décret. Une avancée jugée suffisamment constructive par les leaders syndicaux pour suspendre la grève. Dans un message à ses militants, la direction du syndicat SECMA se félicite de la détermination des grévistes. « Nous avons pu faire entendre notre voix », écrit le secrétaire général Bakary Berté. Plusieurs enseignants-chercheurs, membres de la coordination syndicale, confient cependant leurs doutes. La création de cette commission est certes un premier pas, mais la grève est levée sans que rien de concret n'ait encore été acquis. « J'espère qu'ils savent ce qu'ils font », commente un enseignant-chercheur ayant scrupuleusement observé les 3 semaines de grève et qui oscille désormais entre scepticisme et optimisme.
David Baché, vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 22h43, en temps universel et à Abidjan. En Côte d'Ivoire, plus d'un travailleur sur deux est confronté à des violences ou à des actes de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Voilà ce que révèle une étude récente de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Pression psychologique, abus de pouvoir, harcèlement, ces réalités sont souvent passées sous silence. Alors comment ces victimes vivent-elles cette situation? Quelles solutions sont mises en place? C'est un reportage d'Abdoul Aziz Diallo.
À la sortie de l'université, Mireille décroche son premier emploi dans une entreprise de la place. Mais sa joie sera de courte durée. L'un de ses supérieurs hiérarchiques jette son dévolu sur elle. Malgré son refus d'entrer dans son jeu, il insiste et la harcèle pendant plusieurs mois.
Il a eu une sorte d'attouchement. Il a eu à tenir des propos déplacés vis-à-vis de ma personne, chose que je n'appréciais pas. Mais au vu du titre de la personne, j'avais du mal au départ à prendre une décision ferme par peur que cela ait des répercussions sur mon travail ou sur ma carrière.
Ne supportant plus la situation, Mireille finit par quitter son emploi. Comme elle, plus d'un travailleur sur deux en Côte d'Ivoire déclare avoir été victime de violences ou de harcèlement au travail. L'étude de l'ENSEA met en évidence des abus psychologiques mais aussi du harcèlement sexuel. Face à ce fléau, l'ONG Akwaba Mousso accompagne les entreprises pour tenter d'y mettre un terme. Maureen Grisot est la directrice exécutive.
Il s'agit de plusieurs procédures afin de mettre en confiance les victimes de harcèlement sexuel et de protéger les victimes ou les personnes à qui elles se confient. Il y a aussi une phase de sensibilisation du personnel pour expliquer ce qu'est le harcèlement sexuel, car beaucoup ne savent pas que certains de leurs actes font partie du prisme du harcèlement sexuel.
En Côte d'Ivoire, la loi prévoit une peine d'un à trois ans de prison et une amende de 360 000 à 1 million de francs CFA en cas de harcèlement en milieu professionnel. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Antananarive, 96 FM.
Relancer le secteur pétrolier à Madagascar, c'est l'ambition annoncée au début de l'année par le Conseil du gouvernement malgache. La grande île dispose en effet d'un large bassin sédimentaire, aussi bien sur terre qu'en mer, onshore ou offshore. Et aujourd'hui, seule une entreprise, Madagascar Oil, dispose encore d'un bloc pétrolier, mais ne l'exploite plus depuis 2016, faute de moyens. Le gouvernement espère bien attirer de nouveaux investisseurs pour relancer les explorations. Sarah Teto.
Les études menées jusqu'à présent sur et autour de l'île ont montré un vrai potentiel en matière de pétrole, gaz naturel, huile lourde et grès bitumineux, affirme Olivier Rakoutmalal, le ministre des Mines. Aussi, Madagascar ne doit pas manquer le coche.
L'énergie fossile joue encore un grand rôle dans le mix énergétique mondial. Les récentes découvertes d'hydrocarbures au niveau de l'Afrique de l'Est, Mozambique, Kenya, Tanzanie, ça a suscité un grand intérêt au niveau de l'investissement en termes d'exploration. Bien évidemment que les annonces du président Trump au sujet du forage pétrolier ne font que renforcer la décision du gouvernement à relancer le secteur pétrolier en amont.
Seulement, pour pouvoir allouer de nouveaux blocs pétroliers, l'État doit d'abord assainir l'existant, à savoir 22 blocs déjà attribués et qui appartiennent toujours juridiquement à une quinzaine d'entreprises internationales.
Ces blocs pétroliers ont été attribués à partir des années 2000 par décret présidentiel. Pour libérer ces blocs, nous devons prendre un décret pour pouvoir les annuler et pouvoir de nouveau attribuer ces blocs à des nouveaux investisseurs. Nous devons aussi mettre à jour le modèle de contrat de partage de production pour le rendre beaucoup plus équitable et qu'il réponde mieux aux attentes environnementales et sociales qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans.
Le ministère espère annoncer la réouverture des blocs pétroliers au plus vite. Plusieurs grandes majors ont déjà fait part de leur intérêt. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Le football, et ça se passe au Togo dans le cadre des qualifications pour la CAN féminine 2026. Plusieurs confrontations vont avoir lieu en match aller. Retour les 21 et 26 février. Ainsi, les Togolaises s'apprêtent à recevoir dès vendredi, puis le mercredi suivant, les Djiboutiennes. Le stade de Djibouti étant suspendu, les éperviers féminines seront favorites. Elles se préparent depuis quelques jours au stade Kégué de Lomé, où notre correspondant Gerson Dovou s'est rendu dimanche.
Dans le ciel de Kégué à Lomé, le soleil décline lentement sur la pelouse, lancée pêle-mêle, la vingtaine de ballons ramenés pour la séance. Au milieu du terrain, 16 joueuses.
Ça joue la fille. Allez.
Au premier poteau dans la première moitié de la pelouse, les gardiennes de but en pleine activité. Exercice de maîtrise de la balle, concentration, anticipation. Tout autour de la pelouse, journaliste et photographe. De son côté, la préparatrice physique presse.
Jouez le ballon, la fille, jouez le ballon. Je ne vous sens pas. Allez. Ouais. Comment ça va?
Au passage, quelques ratés, le temps monte.
Attends, défends debout.
Un peu en retrait, Kaito Meti observe, calepin, stylo en main, prend l'hôte et réorganise dans la foulée l'ensemble de ses polichés en équipe dans la seconde moitié du terrain. En conférence de presse, la coach revient largement sur le match Togo-Djibouti, se montre confiante mais reste sur ses gardes.
On les a battus 13 buts à 0. Le contexte là est passé, c'est un match à prendre au sérieux. Djibouti a évolué énormément. Le niveau n'est plus le même. On doit prendre les deux matchs au sérieux pour les gagner. Il n'y a pas de comédie à jouer avec les joueurs.
Néanmoins, dans le nid des éperviers, le moral est au beau fixe et ça laisse à espérer dans tout un pays. Gerson de Volomé, RFI.
L'incontournable sommet sur les mines en Afrique, le Mining Indaba, s'est tenu récemment au Cap, c'est en Afrique du Sud. Selon les estimations, l'Afrique détient 30% des réserves en minerais. Critique essentielle pour la transition énergétique parmi les grands habitués du salon, les Américains, qui envoient habituellement une importante délégation. Et cette année, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche semble modifier cette dynamique et les partenariats pourraient évoluer. Claire Bargelès.
La délégation américaine s'est réduite comme une peau de chagrin cette année, tant sur la scène du Mining Indaba que dans les allées du salon. Seul représentant à prendre la parole, Scott Woodard, le secrétaire adjoint par intérim spécialisé sur les questions de transformation énergétique auprès du département d'État. Il est resté très vague sur la politique minière à venir.
L'un des premiers décrets signés par le président dès son arrivée au pouvoir concerne l'extraction et la transformation de minerais, surtout aux États-Unis. Mais si on le lit de plus près, il y est aussi fait mention à de multiples reprises des partenariats internationaux et de la coopération avec d'autres nations.
La nouvelle administration ne s'est pas encore totalement installée et on attend toujours la nomination de l'équipe Afrique de Donald Trump, bien que son ancien envoyé spécial pour le Sahel et les Grands Lacs, Peter Pham, soit pressenti. Selon les experts, le corridor de Lobito devrait continuer à être développé. La modernisation de cette ligne ferroviaire pour faciliter le transport de minerais de la RDC et de la Zambie vers l'Angola afin de les exporter depuis la côte ouest du continent rentre dans la logique de concurrence avec la Chine. Mais un point d'interrogation flotte au-dessus d'autres partenariats, selon Vincent Rouget du cabinet Contrôle Risque.
Les compagnies continuent, mais après, elles ont souvent besoin de certains mécanismes d'aide de l'État américain pour finalement dérisquer certaines transactions qui pourraient être dans des pays compliqués ou des nouveaux marchés. On voyait souvent l'État américain intervenir soit par les biais de la diplomatie pour faciliter les échanges, les négociations, soit par le biais d'aides financières ou de garanties, de prêts. Et là, on a un point d'incertitude sur est-ce que ça va continuer pour l'instant. C'est trop tôt pour le savoir.
Côté sud-africain, le ministre des Mines, Gwede Mantache, souhaite durcir le ton pour répondre au gel de l'aide américaine décidé par Donald Trump.
S'ils ne veulent plus nous donner d'argent, ne leur donnons pas de minerais. Nous avons des minerais sur ce continent, donc nous possédons quelque chose. Nous ne sommes pas de simples mendiants. Nous devons utiliser cette richesse à notre avantage en tant que continent. For our benefit
as a continent. Les doutes planent aussi au-dessus de la volonté des États-Unis de continuer à développer les chaînes de valeur ajoutée en Afrique, comme dans le cadre de l'accord signé avec la Zambie et la RDC pour fabriquer sur place des batteries électriques. Claire Bargelès, de retour du Cap, RFI.
Et nous quittons le Cap en Afrique du Sud pour le nord du Bénin. Le pays a subi le 8 janvier une attaque qui a coûté la vie à plus de 30 soldats dans la zone dite du Point Trip. C'est à la frontière avec le Niger et le Burkina, revendiquée par le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Elle s'est soldée par la plus lourde perte depuis le déploiement de l'opération Mirador. Magali Lagrange s'est rendue dans le nord du pays, à Banikoara. La situation sécuritaire est dans tous les esprits. Les habitants s'adaptent, surtout en soirée. Reportage.
Les commerces sont ouverts à Banikoara Centre. Issiako attend les clients derrière la grille de son kiosque jaune et bleu.
C'est mon activité, ça. Je fais transfert d'argent et je vends des crédits aussi. Avant, ça marche. Mais maintenant, c'est la patience. Le temps est un peu dur. Dans la journée, comme ça, on ne vend pas. C'est le matin, le soir. Et maintenant, le soir aussi, notre temps est limité. Je quitte ici à 20h30 pour ma sécurité aussi.
Plusieurs sources locales évoquent le transport de carburant par des jeunes soupçonnés de ravitailler les groupes armés.
Des fois, les militaires viennent pour embarquer certaines personnes. On leur dit que, vous avez transporté les bidons d'essence, amener ça de l'autre côté de la commune. Parce qu'il y a certaines localités, tu ne peux pas aller là. Si on te prend là, c'est toi seul, tu vas subir les conséquences. Nous-mêmes, on ne se retrouve pas.
À côté de lui, des émigrants, des mototaxis patientent à l'ombre. Ce jeune homme, casque sur la tête, s'arrête sur un côté de la voie pavée.
Ah, vraiment, il y a la peur. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Si on prend, on voit que c'est quelqu'un, il est djihadiste, on ne sait pas où. C'est pour cela qu'on a toujours peur de faire même le travail. Par exemple, les lieux interdits d'aller à cause de l'insécurité là. Comme Djumbago, Kabago, au niveau de Mekrou, on ne peut pas aller tous ces liens-là. Tu parles là-bas, on va te qualifier comme tu es aussi djihadiste ou bien comme si tu es aussi un criminel. Donc ça fait qu'on reste toujours en ville.
brouettes, motos et piétons circulent dans les rues adjacentes. Ce jeune homme vend des produits alimentaires avec son père. L'activité marche bien. C'est surtout le soir que la vie a changé.
La nuit, il y a les militaires qui font la patrouille. Donc à partir de 0h du jour, il n'y a pas trop de promenades. Donc il y a un confinement, on dirait. Bon, avant, j'avais l'habitude de me promener un peu aux alentours de 22h et aller jusqu'à 01h comme ça. Mais dès que les militaires ont commencé, du coup, à 22h, déjà, je suis à la maison. On entend des frappes ailleurs, on entend, donc, on ne sait pas quand est-ce que ça vient chez nous. Mais quand même, pour l'instant, ça va.
Il n'y a officiellement pas de couvre-feu à Banikoara Centre, mais de sources locales, plusieurs villages de la commune, riverains du parc W et frontaliers du Burkina Faso, sont concernés de 18h à 6h du matin. Magali Lagrange, de retour de Banikoara, RFI.
RFI vous propose une série de 4 reportages dans le nord du Bénin jusqu'à jeudi, à retrouver également sur notre site internet www.rfi.fr.
RFI. Les voix du monde.
Et on va ouvrir la page playlist de ce mois de février. C'est la sélection de Pierre Vallée qui a choisi de vous faire écouter ce soir le groupe Kin Gongolo Kinyata, originaire de Kinshasa. Un groupe qui s'est formé autour d'une idée toute simple, faire de la musique avec des instruments fabriqués eux-mêmes, avec leurs petites mains. C'est de la récup, du recyclage. Ça va des bouteilles en plastique en passant par des percussions faites à base de boîtes de conserve, une guitare avec une seule corde, mais ça marche. Et ces artistes de rue nous proposent L'Iséquité. C'est un son afro avec une base électro-funk dans l'énergie. On y retrouve également une touche de rock parfois. C'est un son qu'on va écouter tout de suite qui nous rappelle un certain Jupiter. Le titre du morceau, c'est L'Iséquité. Gongolo Kinyata, c'est dans la playlist des RFI à trouver sur toutes les plateformes YouTube, Spotify. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci à toute l'équipe, à la réalisation. Arthur Geoffroy, reste à l'écoute. L'info revient dans quelques instants avec Antoine Gallen.
RFI, la sélection du mois.
Ben l'oncle Soul.
I got everything I need. You know I got home. I got everything I want. You know I got home.
Benjamin Epps.
5 gosses de 5 pères différents. Viens, je t'emmène chez le jeune, là où cette chaîne de vie est moche. Chaîne de vie qu'on aime.
Wow. Bad Bunny.
Si te quieres divertir, un verano en Nueva York.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Quand l'écriture guérit, thérapie par la création littéraire encadrée par des soignants, comment fonctionne cette écriture refuge, écriture qui soulage?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.